journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Selon le pape François, le père Jacques Hamel a été victime d'un crime satanique. Le souverain pontife a célébré ce matin une messe à la mémoire du prêtre égorgé par des djihadistes. Dans un instant, le reportage de Mathilde Imberti au Vatican. 3 ans de prison ferme requis contre Jérôme Cahuzac. Le procureur, dans son réquisitoire, a fustigé un homme coupable d'avoir flétri l'honneur de la France. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme dans ce journal. L'affaire Cahuzac qui a débouché sur une intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Le ministre Michel Sapin a promis ce matin d'aller encore plus loin pour punir les fraudeurs. Nous verrons cela avec Jean-Marc Chardon. Les syndicats d'EDF unanimement mobilisés contre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Jean-Marie Chevalier, spécialiste des questions d'énergie. Le pape François a donc rendu hommage au père Jacques Hamel ce matin au Vatican. Le souverain pontife a évoqué le martyr du prêtre français, égorgé par des djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet dernier. L'attaque avait été revendiquée par l'État islamique. Elle intervenait 12 jours après l'attentat de Nice, lui aussi revendiqué par Daesh. C'est dans une messe que le pape François a évoqué la mémoire du père Hamel en présence de plusieurs dizaines de fidèles français. Le reportage à Rome de Mathilde Imberti.
Le pape porte l'aube rouge, la couleur liturgique des martyrs. La photo du père Hamel est posée sur l'autel. La messe en sa mémoire est célébrée dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, la résidence du pape François.
Le père Jacques fait partie de cette chaîne des martyrs.
Padre Jacques Hamel, homme bon, mite.
Le père Hamel, un homme bon, doux, de fraternité, qui cherchait toujours à faire la paix, a été assassiné comme s'il était un criminel.
Se fosse un criminal.
Ceci est le fil satanique de la persécution.
Satanique, le qualificatif est prononcé plusieurs fois dans l'homélie devant 80 fidèles du diocèse de Rouen, parmi lesquels 2 sœurs du père Jacques Hamel, des fidèles conduits par l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun.
Le pape nous a vraiment apporté des paroles d'un grand frère, d'un père. Il a été aussi l'enseignant. Sans hésiter, il a situé la mort du père Jacques dans le grand courant des martyrs depuis Jésus, le premier martyr.
Le pape a également déclaré, comme il serait bien que toutes les confessions religieuses disent que tuer au nom de Dieu est satanique. La sœur cadette du père Hamel a réagi. Les jeunes gens qui ont assassiné mon frère l'ont fait au nom d'un Dieu qui tue et qui n'est pas le Dieu de l'islam.
Mathilde Imberti, notre correspondante en Italie. La menace djihadiste qui ne faiblit pas en France, mais qui prend une nouvelle tournure. En l'espace d'une semaine, 3 adolescents d'une quinzaine d'années ont été arrêtés en région parisienne. Dernière en date, un garçon de 15 ans interpellé ce matin dans le 20e arrondissement de Paris. Les 3 adolescents étaient tous en contact via la messagerie cryptée Telegram avec un djihadiste français parti en Syrie, Rachid Kassim, originaire de Roanne. Il est soupçonné de vouloir téléguider des attentats en France pour le compte de l'État islamique. La sanction judiciaire approche pour Jérôme Cahuzac, dont le procès pour fraude fiscale et blanchiment s'achève demain. Aujourd'hui, le parquet financier a requis à l'encontre de l'ancien ministre du budget 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Il a demandé 2 ans de prison ferme pour l'ex-épouse Patricia Cahuzac. Un réquisitoire implacable contre l'ex-ministre de François Hollande, accusé d'avoir flétri l'honneur de la France. Florence Turme.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la fraude fiscale, lance le procureur. Jean-Marc Toublan a convoqué Montesquieu pour rappeler qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'égalité. L'affaire Cahuzac, poursuit-il, ce sont 20 ans de revenus occultes, d'inégalités scandaleuses entre lui et la France. Triste chronique d'une vie familiale enracinée dans la fraude et la dissimulation. L'ancien ministre du budget ne le regarde pas, tête baissée et dos voûté durant la majeure partie du réquisitoire. Frauder l'impôt, c'est frauder la nation, enchérit Éliane Houlette. La patronne du parquet national financier, créée précisément à la suite de l'affaire Cahuzac, va s'interroger sur la juste peine, rappelant d'abord le maximum prévu par la loi, 7 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Elle s'adresse d'abord à Patricia Cahuzac. Comme votre mari, vous avez fraudé, vous l'avez même surpassé dans la dissimulation, avec cette distinction de taille, lui était ministre. Puis elle se tourne vers Jérôme Cahuzac. Vous êtes à terre, je n'entends pas en profiter. En revanche, elle insiste, pas d'aménagement de peine pour les 3 ans de prison ferme qu'elle requiert. Aucune bienveillance n'est possible, conclut Éliane Houlette, face à ce mensonge d'État, à cet homme dont l'histoire écrira qu'il a effrontément trahi les devoirs de sa charge. Sur sa chaise, Jérôme Cahuzac, lui, n'a pas bronché.
Florence Turm, merci. Place demain aux plaidoiries de la Défense pour la dernière journée du procès Cahuzac. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. Et c'est bien sûr un acquis de l'affaire Cahuzac, le gouvernement qui intensifie sa lutte contre la fraude fiscale. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, s'est félicité aujourd'hui de la hausse des redressements fiscaux dans tous les domaines. Michel Sapin qui promet d'aller encore plus loin pour sanctionner les fraudeurs. Jean-Marc Chardon.
Au bout de la lutte contre la fraude, un tableau de chasse qui peut impressionner au vu des amendes et des pénalités qui tombent sur quasiment tous les terrains. Déjà, la fraude fiscale en tant que telle, qui a permis d'opérer plus de 21 milliards de redressements, presque 10% de plus que l'année précédente. Dans le lot, 5 gros dossiers relèvent de multinationales, représentant plus de 3 milliards d'euros. Sur les droits de douane, les redressements ont bondi de près de 6%. La traque sur les abus concernant le travail détaché avec 2000 interventions de l'inspection du travail, 4 fois plus en un an. Plus visible peut-être, c'est la fraude qui a été détectée à la Sécurité sociale avec un saut de 17%. Elle dépasse le milliard d'euros. Cette fraude, elle affecte toutes les branches, retraite, mais aussi maladie, sous forme d'usurpation, d'identité, et la branche famille pour fausses déclarations sur le RSA ou les aides au logement. Si les résultats sont significatifs de la mobilisation de l'administration, c'est aussi parce que la fraude elle-même est en hausse. Alors comment dissuader les fraudeurs? Le ministre a annoncé un alourdissement de pénalités, y compris à l'égard des repentis, et avec la fixation d'objectifs triennaux, l'ensemble de cette politique devant se conjuguer avec le renforcement des échanges d'informations.
Les syndicats et de nombreux salariés d'EDF se mobilisent contre la fermeture programmée de Fessenheim. La plus vieille centrale nucléaire française doit s'arrêter en 2018, conformément à une promesse de campagne du candidat Hollande. Le projet de fermeture était examiné aujourd'hui en comité central d'entreprise. Mais les syndicats unanimes y sont opposés. Ils ont voté une résolution en CCE demandant une expertise. Au même moment, à Fessenheim, 82% des personnels de la centrale alsacienne étaient en grève selon les chiffres syndicaux. Car pour les syndicats, fermer Fessenheim est un non-sens économique, même si l'accord de fermeture prévoit le versement d'une indemnité de 400 millions d'euros à EDF. Rodolphe Percé est le délégué CFE-CGC de l'entreprise.
Sur l'aspect économique, ce qu'il faut voir, c'est que c'est complètement absurde, cette décision. En fait, vous allez faire payer le contribuable français pour compenser les frais liés au démantèlement qui seraient anticipés, mais il est aussi prévu, et c'est normal, de dédommager pour le manque à gagner les 5 sociétés qui participent à l'exploitation du site de Fessenheim. On parle beaucoup d'EDF, mais vous avez une société allemande et 3 sociétés suisses qui sont parties prenantes. Et il est prévu jusqu'en 2041 d'indemniser ces 5 sociétés pour le manque à gagner en fonction de l'évolution des prix du marché. Donc ça veut dire que pendant 25 ans, les contribuables français vont payer EDF, mais aussi les Allemands et les Suisses, qui demandent la fermeture de Fessenheim, vont payer ces sociétés privées allemandes et suisses pour compenser le manque à gagner. Et en même temps, on aura détruit 2200 emplois en France pour que ces sociétés-là, qui sont nos concurrents sur un marché libéralisé, puissent récupérer nos emplois et nos parts de marché. Ces partenaires dans l'exploitation de Fessenheim, il faut savoir qu'elles ont un droit de tirage sur la production de Fessenheim. Si Fessenheim n'est plus là, ces sociétés, pour produire ce courant qui ne sera plus produit, pourront, eux, se développer et récupérer nos parts de marché. À l'heure actuelle, nos coûts de production sont tellement bas qu'on est impossible à concurrencer. Si on nous ferme d'autorité, nos parts de marché seront récupérées par d'autres.
Propos recueillis par Cécile de Kervas-Doué. Alors un invité dans ce journal, l'économiste Jean-Marie Chevalier, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des questions d'énergie. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Chevalier, fermer Fessenheim dans 2 ans, en 2018, comme le souhaite le gouvernement. Est-ce que c'est possible selon vous?
Alors, premièrement, oui, c'est possible. Deuxièmement, économiquement, ça me paraît assez peu rationnel. On a en France 58 centrales, 58 réacteurs nucléaires qui sont l'héritage de l'histoire, une histoire qui a été dynamique, qui a été très très interventionniste, et maintenant il faut gérer ce parc. Alors pour gérer ce parc, il y a deux choses, il y a la sécurité et il y a l'économie. La sécurité repose dans les bras de notre autorité de sûreté nucléaire qui a la réputation d'être à la fois compétente, transparente, et donc c'est un point important ça. Alors, pour l'instant, l'autorité de sûreté nucléaire vis-à-vis de Fessenheim avait donné le droit de prolonger le fonctionnement du réacteur. Alors, pour moi qui suis économiste, si vous voulez, à partir du moment où les critères de sécurité sont remplis et que la centrale peut fonctionner dans des conditions économiques normales, il faut qu'elle continue à fonctionner.
Donc, vous considérez que Fessenheim est une installation viable économiquement ?
Je dis que la gestion des réacteurs que nous avons en France à l'heure actuelle doit se faire en combinant deux critères, critères de sécurité et critères économiques. Donc, si l'autorité dit « vous pouvez continuer », on continue, sans hésiter. Si l'autorité de sûreté dit « vous pouvez continuer à condition d'investir tant de millions d'euros pour changer certains équipements », là, la question est entre les mains de l'opérateur qui dit si oui ou non ça peut être rentable.
Et alors justement, Jean-Marie Chevalier, à quoi sert Fessenheim aujourd'hui dans le maillage électrique français ?
Ben, vous savez, chaque centrale est un élément du maillage. Et Fessenheim est dans un maillage européen, puisque vous savez que certains contrats de fourniture ont été signés avec les Suisses et les Allemands. Donc c'est un élément important d'un maillage européen, et ce maillage est assez fragile. Si on ferme tout d'un coup une centrale, il faut pouvoir remplacer les kilowattheures qu'elle ne fournira plus par d'autres kilowattheures. Et donc on est là sur le problème du coût de la fermeture de Fessenheim, qui est un problème extrêmement compliqué, parce qu'il a donné lieu à un rapport parlementaire qui parlait de 3 ou 4 milliards d'euros. Plus récemment, le ministère de l'Énergie et de l'Environnement a parlé de quelques centaines de millions d'euros. Et donc derrière, on a un très grand nombre de variables extrêmement compliquées à analyser.
Où est-ce que l'on pourrait chercher les kilowattheures nécessaires si Fessenheim devait effectivement fermer ? Ce serait du côté des énergies renouvelables ?
Alors, attendez, on est à un moment où il y a une stagnation de la demande d'électricité dans nos pays, donc on est plutôt en surcapacité. Alors, on est dans un système européen, et s'il manque des kilowattheures à un moment donné, on va les chercher là où ils sont disponibles et où ils sont le moins chers. Et pour l'instant, nous, quand on est en sous-capacité, on va plutôt les chercher en Allemagne. Alors, bien sûr, les renouvelables jouent leur rôle, et qu'ils apportent des kilowattheures supplémentaires, une puissance disponible supplémentaire, mais pas toujours dans de très bonnes conditions économiques. Parce que quand une centrale renouvelable tourne, les électriciens sont obligés d'acheter ces kilowattheures, même s'ils n'en ont pas besoin. Ce qui aboutit à un certain moment sur le marché européen à avoir des prix négatifs, ce qui est évidemment aberrant du point de vue économique.
D'une façon générale, Jean-Marie Chevalier, la France a-t-elle les moyens de sortir du nucléaire sans renoncer à son indépendance énergétique en matière de production électrique ?
Votre question est difficile parce que indépendance énergétique avec l'Europe qui est complètement interconnectée, on ne sait plus très bien où elle est. L'important, c'est que surtout, il n'y ait pas de panne d'électricité, parce que ça, c'est dramatique. Et donc, on achète l'électricité là où elle est disponible. Alors, on est en train d'aller vers la transition énergétique, c'est de combiner le système actuel avec une part plus importante pour les renouvelables, ce qui est une bonne chose à moyen et long terme, mais c'est très difficile à gérer.
Ça veut dire que selon vous, les énergies renouvelables aujourd'hui ne sont pas suffisamment performantes pour prendre le relais des énergies fossiles ?
Alors, ce qu'il y a, c'est que le coût des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, diminue assez rapidement et d'une façon irréversible. Et je rajoute à cela un élément important, c'est que le coût du stockage est aussi en train de diminuer. Donc, on arrivera à un moment, alors quand, dans quelques années, où les énergies renouvelables seront parfaitement compétitives par rapport aux énergies fossiles ou au nucléaire.
Jean-Marie Chevalier, professeur à Paris Dauphine, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'intersyndicale d'Alstom appelle à la grève le 27 septembre prochain pour dénoncer le projet de fermeture partielle du site de Belfort. La production de locomotives serait transférée à Reichshoffen en Alsace. 400 emplois sont menacés à Belfort. Face à la pression du gouvernement, la direction d'Alstom a décidé de geler le projet pendant 10 jours pour examiner d'éventuels scénarios alternatifs. Ce soir, l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Arnaud Montebourg affirme que l'État était au courant des menaces qui pèsent sur l'usine de Belfort. La météo demain, la dégradation pluvio-orageuse se généralise. Après le sud, le mauvais temps va gagner le nord de la France. 10 départements du sud-est ont été placés en vigilance orange. Les températures maximales sont en forte baisse, 19 à 23 degrés en moyenne, jusqu'à 27 degrés dans le nord-est avant l'arrivée des nuages. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.